L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et ce sont, comme chaque semaine, les grandes lignes de l'actualité vues par la radio-télévision suisse, par France Bleu, RFI, Radio-Canada et la RTBF. Il va d'abord être question du changement climatique. Benoît Almeras, l'Afrique est de plus en plus touchée.
Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le continent subit des épisodes extrêmes. Vagues de chaleur rarissimes, sécheresses, inondations et pluies diluviennes. Les conséquences sont désastreuses.
Au Canada, retour sur un scandale lié au développement d'une application pour le gouvernement. Il s'agit de l'application ArriveCan, c'était lors du Covid. Ce scandale a donné lieu à un événement extrêmement rare au Parlement cette semaine, Mélanie Hood.
L'un des entrepreneurs à l'origine d'ArriveCan a fait l'objet d'une admonestation, une première depuis 1913.
En Belgique, c'est un important chantier sur le réseau autoroutier qui fait parler de lui. Des embarras de circulation gigantesques, mais aussi, Jacques Crémers, des tensions entre les trois régions du pays.
Oui, des tensions à cause d'un manque de concertation ou de communication, car dans les faits, ce chantier qui est géré par la Flandre embarrasse principalement des automobilistes wallons et des communes bruxelloises.
Nous serons aussi à Notre-Dame de Paris. Il y a 5 ans, l'édifice était ravagé par les flammes. La réouverture est prévue début décembre. Nous entendrons 2 restauratrices qui ont longuement travaillé au sein de la cathédrale. Enfin, en Suisse, on s'interroge sur l'avenir industriel du pays. Interrogation après des craintes sur la possible fermeture de la dernière verrerie, une entreprise qui fabrique des bouteilles et des emballages en verre, Pierre-Anne Chauffat.
Modèle vertueux de l'économie circulaire en travaillant le verre recyclé, l'usine Vetropack et son sort incertain symbolisent les difficultés concurrentielles de l'industrie suisse face aux programmes d'impulsion européens et américains.
Et voilà donc pour les titres de cette semaine. Les catastrophes climatiques se multiplient donc depuis le début de l'année sur le continent africain. Benoît, on en sait plus tout d'abord sur la vague de chaleur qui a touché l'Afrique de l'Ouest au début du mois.
Le thermomètre a affiché des températures supérieures à 45 degrés Celsius, notamment au Mali et au Burkina Faso. Une canicule qui trouve ses origines dans le changement climatique attribué aux activités humaines. C'est la principale conclusion d'un rapport du WWA, un réseau de scientifiques spécialistes du climat. Pour eux, il s'agit même d'un épisode qui ne survient en principe qu'une fois tous les 200 ans. Selon cette étude, les fortes chaleurs ont sans doute provoqué des centaines, voire des milliers de morts au Sahel, surtout chez les personnes âgées.
Autre zone touchée, Benoît, l'Afrique australe, et cette fois par la sécheresse.
Depuis plusieurs semaines, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi affichent un déficit de pluviométrie. Une aridité quasi inédite, principalement aggravée cette fois par le phénomène El Niño. La Zambie demande une aide de 900 millions de dollars pour faire face au manque de pluie. Et le manque d'eau provoque aussi une augmentation des maladies comme le choléra dans la région.
El Niño qui provoque de fortes inondations dans la région des Grands Lacs.
C'est le cas en République démocratique du Congo. La ville de Kalemie, au bord du lac Tanganyika, est particulièrement touchée. Les pluies torrentielles provoquent la montée des eaux du lac. Environ 3500 familles ont dû quitter leur maison. Et les habitants de la ville doivent se déplacer en pirogue dans certains quartiers pour pouvoir se rendre, par exemple, au marché. Autre pays actuellement touché, le Burundi, lui aussi riverain du Tanganyika. Là, ce sont 100 000 personnes qui ont dû se déplacer en raison des pluies et des glissements de terrain qu'elles provoquent.
Et El Niño exacerbe les effets du réchauffement climatique en Afrique. Le phénomène pourrait durer jusqu'à la fin du mois prochain. Les suites à présent d'un scandale au Canada, l'explosion des coûts de développement de l'application ArriveCan continue de faire des vagues à Ottawa. L'un des entrepreneurs à l'origine de cette application mobile a été convoqué par le Parlement pour répondre aux questions des élus. Mélanie, cette comparution cette semaine, eh bien, c'était historique.
La dernière fois qu'un simple citoyen a reçu l'ordre de comparaître devant la Chambre des communes remonte à plus de 100 ans. Christian Firth, l'un des 2 fondateurs de GC Strategies, a été convoqué parce qu'il a refusé en mars dernier de répondre aux questions devant un comité parlementaire. Voici le moment où il a reçu son blâme.
Au nom de la Chambre des communes, je vous admoneste. De plus, la Chambre vous ordonne de répondre aux questions auxquelles vous avez refusé de répondre.
Selon un rapport de la Vérificatrice générale du Canada, la facture totale d'Arifcan, développée pendant la pandémie pour exercer un contrôle accru aux frontières, s'élèverait à près de 60 millions de dollars. La version initiale a coûté 80 000 dollars et a ensuite fait l'objet de 177 mises à jour. Une trentaine d'entreprises ont travaillé en sous-traitance. GC Strategies, qui ne compterait que 2 employés qui travaillent de la maison, aurait empoché environ 19 millions de dollars.
Alors, Mélanie, comment s'est déroulée finalement la comparution à la Chambre pour cet entrepreneur?
Christian Firth a finalement répondu aux questions. Il en a profité pour présenter des excuses aux parlementaires. Il a affirmé avoir commis des erreurs. À la toute fin, on lui a demandé s'il avait honte. Voici ce qu'il a répondu.
Non, I am not ashamed.
Non. Je n'ai pas honte. Il a ensuite été escorté à l'extérieur de l'enceinte du Parlement.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Des bouchons, d'énormes bouchons qui créent la polémique en Belgique. À présent, un important chantier à l'entrée sud de Bruxelles est source de vives tensions, Jacques, entre les différentes régions du pays.
Oui, la rénovation du tunnel Léonard en périphérie de Bruxelles a débuté en 2023. Le sel, les gaz d'échappement et les eaux d'infiltration ont abîmé le béton et l'acier. L'infrastructure doit être rénovée. Mais depuis le début d'une nouvelle phase des travaux le 18 mars dernier, la polémique enfle et les protestations fusent de toutes parts, en tous les cas au sud de Bruxelles, du côté francophone. Le chantier est en effet géré par la Flandre, mais il dévie la circulation dans les communes bruxelloises et il embarrasse principalement les automobilistes wallons.
Je venais toujours par ici, mais maintenant je suis obligée de faire un autre trajet qui me coûte 15 à 20 minutes en plus ou une demi-heure chaque jour, chaque matin.
J'ai la sensation qu'il y a un gros problème en termes de gestion de... Je sais pas, des grands axes, de la fluidité du trafic à Bruxelles, et ça se ressent en permanence, quoi.
C'est hallucinant. Je mets plus de temps pour faire mes courses, d'aller au magasin pour pouvoir faire mes courses, que d'aller chez un client à Liège. C'est un bordel sans nom.
On l'a bien compris, du point de vue des automobilistes, la situation est difficile, d'autant que le chantier va durer plusieurs mois. Pressé par les bourgmestres des communes concernées de différer certains travaux afin de permettre la mise en place de mesures d'accompagnement, la Flandre a tout au plus accepté de reporter de 2 jours la fermeture d'une bretelle empruntée quotidiennement par environ 9000 automobilistes. En ultime recours, une action en justice a même été intentée contre la Flandre par la commune bruxelloise d'Auderghem. Réponse dans le mois. Mais la Flandre se défend. Elle dit avoir averti des conséquences bien à temps dès le mois de février dernier. Information peu claire, rétorque-t-on du côté wallon et bruxellois.
Jacques Crémers pour la RTBF. C'était il y a un peu plus de 5 ans, le 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame de Paris. La cathédrale avait vu sa flèche s'effondrer et sa toiture en partie ravagée par les flammes, sans parler des dégâts causés à l'intérieur de l'édifice. Depuis lors, des centaines d'ouvriers et d'artisans se sont succédés pour redonner sa splendeur au monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La flèche a été reconstruite, les échafaudages sont en train d'être démontés. La réouverture, elle est prévue le 8 décembre prochain. Sarah Tucherer a rencontré 2 restauratrices d'art. Elles lui ont raconté ce chantier si particulier.
Emma Grou aura passé 1 an et demi avec les vitraux de Notre-Dame.
Ils avaient surtout subi un gros empoussièrement résiduel de l'incendie, mais globalement, ils étaient quand même en bon état. On n'avait pas de casse de feu, très peu de plomb fondu. Enfin voilà, des choses qui pouvaient être attendues dans le cadre d'un incendie d'une telle ampleur.
Il a malgré tout fallu démonter les vitraux qui se trouvaient en haut du chœur pour les nettoyer et les restaurer en atelier, puis les remonter à 20 ou 30 mètres de hauteur.
Toutes les strates se font en même temps, donc on est rarement habitué à ce qu'il y ait des fouilles au sol pendant que nous on travaille sur les vitraux juste au-dessus et pendant qu'on a une charpente qui se reconstruit au-dessus de nos têtes.
Marie Parent, elle, s'est attaquée aux peintures murales des chapelles. Là encore, des mètres carrés à stabiliser, dépoussiérer et restaurer.
Ça avance quand même bien. Quand on est arrivé, la cathédrale était comme un exosquelette, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des échafaudages, on ne voyait pratiquement pas le mur. Maintenant, il n'y a pratiquement plus d'échafaudages à l'intérieur. Donc, on commence à se réapproprier la nouvelle cathédrale. Donc, petit à petit, je pense que notre mémoire va un peu oublier ces mauvais moments.
Marie a hâte d'être en décembre prochain pour pouvoir contempler le monument non plus comme une professionnelle, mais comme une simple visiteuse.
Sarah Tucherer pour France Bleu Paris. On va se quitter en Suisse cette semaine avec des interrogations liées à la fermeture possible de la dernière verrerie en activité. Va-t-elle inciter les autorités fédérales à réfléchir à une politique industrielle ? La question se pose en tout cas, Pierre-Han, après une forme d'union sacrée au sein de la députation du canton de Vaud au Parlement fédéral.
C'est assez rare pour être relevé. De la droite à la gauche, toutes et tous ont signé. La députation vaudoise, 19 élus sur les 200 de la Chambre du Peuple, s'engage en bloc pour alerter sur le sort de l'usine Vetropack, l'un des grands de l'emballage en verre en Europe. Alors bien sûr, l'enjeu local peut expliquer cette belle unanimité, mais la motion demande aussi au gouvernement de développer des incitatifs pour conserver des secteurs industriels stratégiques et au pays du libéralisme économique. Une telle phrase, co-signée par des élus de droite, peut surprendre.
Alors comment l'expliquer, Pierre-Han ?
Eh bien, sans doute par les programmes des États-Unis et de l'Union européenne pour financer leurs transitions énergétiques et industrielles, un risque concurrentiel majeur pour l'économie suisse. Pour l'auteur de la motion, l'écologiste Sophie Michaud-Gigon, les délocalisations menacent.
Il y a aussi la question du tissu industriel de notre pays et du savoir-faire. Et moi, j'aimerais pas qu'on se réveille un peu trop tard et qu'on se rende compte qu'on aurait dû en parler avant. Je pense que les fronts sont en train de s'assouplir. Il y a une prise de conscience. On a besoin de trouver les bonnes recettes. J'ai confiance qu'on discute vraiment de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très important pour l'économie suisse.
Le ministre de l'économie Guy Parmelin ne s'avance pas sur la volonté du gouvernement d'intervenir.
Il ne souhaite pas faire une politique industrielle parce que les risques sont qu'on maintienne des industries qui ne sont plus viables en Suisse. Par contre, il a, au travers de différentes lois adoptées par le Parlement, différents moyens qui sont à disposition pour les entreprises qui souhaitent investir dans la décarbonisation.
Le sort de la dernière verrerie helvétique devrait se préciser à fin avril, à voir si le cas Vetropack marquera le début d'une politique industrielle en Suisse.
Pierre-Han Chauffat et la radio-télévision suisse qui va refermer l'accent des autres cette semaine. Merci d'avoir été là. Belle fin de semaine et à très bientôt en compagnie des médias francophones publics.